Give me my fucking gun, bro.
Fucking no.
Give me my fucking gun.
Are you
gun.
Fucking crazy? Hey. Hey, it really had to go down like that, Miles, tonight? What the fuck, man? And then what? Then they gonna call the fucking cops and they gonna shoot my black ass and not you.
What the fuck is wrong with you? You didn't do shit back there. You didn't do shit, bro.
That is Knox's partner.
I don't give a fuck who the fuck it is. Knox's partner, is that your partner? No. Is that your partner? No. You know how many times I'd have had your back out here? How many motherfucking times I'd have stepped up for your ass? Huh? And you didn't do shit to help me!
Because
look at my face, bruh!
Because it was fucking stupid, Miles!
Look who the fuck I am, where the fuck I am, Colin! That's how the fuck I survive out here! You wanna act brand new? Then fine, go ahead, be a hipster, get a tech job or some shit, and go act like you don't know where the fuck you from!
I ain't gotta prove to nobody where the fuck I'm from!
Oh, good for you!
Nigga, you got something to prove to everybody!
Yeah? That's because I'm living somewhere where now everybody got me fucked up. You ain't got to do shit. You ain't gotta worry about you changing up your clothes and your lifestyle. You ain't got to worry about none of that shit. You're a big black dude with fucking brains in Oakland. Nobody is misreading you, Colin.
Yeah. Yeah, I know.
Yeah.
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 Yeah, my nigga.
Yeah, bruh.
No, say it.
What?
Say nigga.
Oh, fuck you.
Say it. Say yeah, my nigga.
No.
Why? You know, why?
Oh, come the fuck on.
But why?
Because... You know I don't say that shit.
What, so it's okay for me to call you nigga?
You've been calling me that since we were fucking 12 years old. I'm not gonna stop you now. Do what the fuck you want to say, what you want to say.
If that is so disrespectful, then why is it okay for me to call you that? You're a fucking nigga. You're a fucking nigga, man.
What are we talking about?
You out here acting an ass like it ain't no fucking consequences for that shit. And every nigga who sees me thinks that I do the same dumb, fucking, ignorant, gun-carrying shit that you do. But I've been taking care of my shit. I fucking, don't I do our time cards every week? I pick us up. I keep you out of dumb shit. And then what do? You go out and you buy a fucking gun for what? For your family? You are the nigger that they are out here looking for!
Where the fuck you going?
Bonjour à toutes et tous et bonne année. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Aux Sources. Aujourd'hui, je suis en présence de Maboula Soumaoro, qui est maître de conférence à l'Université de Tours et chercheuse en civilisation des mondes anglophones. Bonjour.
Bonjour Manuel.
J'ai le plaisir de vous recevoir pour un ouvrage que vous faites paraître dans les prochains jours aux éditions de La Découverte, titré « Le triangle et l'hexagone » sous titre « Réflexion sur une identité noire ». C'est un ouvrage qu'on peut dire, en tout cas, je pense autobiographique, je ne sais pas, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est un ouvrage qui part de votre trajectoire aussi bien professionnelle, universitaire que personnelle, puisque vous revenez à la prime enfance, et qui fait cet effort de monter en généralité, ou en tout cas de tisser des liens permanents entre l'histoire singulière, individuelle qui est la vôtre, et la grande histoire, l'histoire sociale, l'histoire politique, que ce soit de la France ou des États-Unis, puisque l'une des caractéristiques de votre parcours sur laquelle on reviendra parce qu'elle éclaire et elle vous a permis d'éclairer beaucoup de phénomènes, c'est finalement cette décennie quasiment que vous avez passée comme ça entre les deux rives de l'Atlantique, côté new-yorkais et puis côté plutôt français, et qui vous permet d'avoir un regard justement à la fois sur deux systèmes universitaires, mais plus généralement aussi deux sociétés, et réfléchir à des thèmes aussi divers que l'art, la culture, l'histoire politique de ces sociétés. Le sous-titre, hein, « Réflexion sur une identité noire », alors je me suis interrogé aussi peut-être sur pourquoi une identité noire, pourquoi pas une condition noire ou l'identité noire, enfin, on reviendra peut-être aussi là-dessus. Juste, je voudrais citer quand même pour commencer une phrase que vous écrivez dans la conclusion du livre, vous dites « Je décide d'être noir ». Et à un autre endroit de l'ouvrage aussi, vous parlez du moment, justement, lorsque pour la première fois, vous passez une année d'échange à New York, vous dites « Je suis devenu noir à New York ». Donc voilà, c'est des formulations qui intriguent, ou en tout cas qui font signe, j'imagine, vers cette idée que cette identité noire est autre chose, ou en tout cas plus qu'une simple pigmentation de la peau. Mais la première chose que j'aimerais qu'on éclaircisse, c'est d'abord ce titre, le triangle et l'hexagone, qui peut faire penser à un manuel de géométrie, mais en réalité qui renvoie à toute autre chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi font référence ces deux formules géométriques ?
D'accord. Donc le triangle et l'hexagone, en fait, c'est un titre qui me tient à cœur et pour lequel je me suis battue auprès de ma maison d'édition, puisqu'on m'a parlé immédiatement de ce côté, alors que ce soit géométrique ou un peu obscur.
Mmh. Et énigmatique, en tout cas.
Voilà, énigmatique, on ne sait pas. L'hexagone, on sait très bien ce que c'est. On définit la France comme hexagonale, mais on définit en vérité une partie de la France comme hexagonale, la France européenne, la France continentale. Et en fait, le triangle, c'est une référence au triangle atlantique. C'est cette zone transatlantique qui, à l'ère moderne de notre histoire, a mis en relation le continent africain, le continent européen et le continent américain. Donc, quand je parle du triangle et de l'hexagone, j'essaye d'inscrire cette France hexagonale, cette France partielle, dans un ensemble plus large. Et ce qui pourrait peut-être nous amener à réfléchir de manière élargie aux significations multiples que la France revêt. La France ne se limite pas à l'Europe, et c'est bien ça l'un des drames actuels, la non-reconnaissance de cet ancrage français dans une histoire mondiale et dans une histoire au moins tricontinentale. J'aurais pu m'intéresser à d'autres espaces du monde, évidemment, dans laquelle la France se trouve, mais moi je m'intéresse à la zone atlantique pour des raisons personnelles et pour des raisons, on va dire, académiques, scientifiques, universitaires.
Alors justement, peut-être que c'est important d'éclairer celles et ceux qui nous regardent sur l'ancrage personnel, puisque vous vous ancrez dans ce triangle. Vous avez vos parents qui sont ivoiriens, c'est ça ?
Voilà.
Mais vous êtes né.
Je suis né.
Vous avez grandi
à Paris, dans l'Hexagone. Je suis né en France hexagonale. Et ensuite, j'ai moi-même longtemps vécu dans les Amériques, notamment aux États-Unis, mais en parcourant d'autres pays des Amériques, notamment la Caraïbe anglophone. Mais j'ai passé près de 10 ans, enfin une dizaine d'années à New York. Donc en fait, je me suis aperçu que moi-même, je faisais partie de ce triangle.
Et pourquoi est-ce que c'est important de revenir sur ces éléments personnels ? Je veux dire, dans le livre, les lecteurs, les lectrices s'en apercevront, il y a beaucoup de vous en tant que personne, c'est un choix entièrement assumé qui n'est pas si courant que ça en sciences sociales, où on a plutôt l'habitude du « nous » que du « je ». Là, c'est un livre qui est écrit à la première personne, où on est plutôt dans une quête effrénée de à la fois la neutralité axiologique et l'universalisme. Et d'ailleurs, je ne dis pas que vous n'êtes pas dans cette quête-là, mais en tout cas, vous partez d'un jeu franc et assumé.
Exactement.
Comment vous concevez
Je pense que c'est un point important, puisqu'il a fallu oser ce jeu. Et on a cette posture intellectuelle et scientifique, plutôt française et francophone même, où on n'ose pas le jeu. Et moi, dans d'autres langues, on le fait. Et moi, peut-être que c'est une influence qui vient de l'extérieur et peut-être des États-Unis ou du monde anglophone. Mais j'ai essayé de réfléchir. Vous avez eu raison de décrire cet ouvrage comme autobiographique, mais partiellement. Parce que moi, mon sujet d'étude, ma spécialisation universitaire, c'est la diaspora africaine. J'étudie les populations d'ascendance africaine, proche ou lointaine, en dehors du continent. Je ne suis absolument pas africaniste. Je m'intéresse au cheminement, aux pérégrinations, aux vagues de migration, aux transformations de culture de ces personnes africaines ou noires, on en parlera plus tard, disséminées à travers le monde. Et en fait, je me suis aperçue, peut-être tardivement, au bout de, on va dire, 20 ans d'études et de recherches, que je m'inscrivais également dans cette diaspora, dans ces cheminements, dans ces pérégrinations, dans ces vagues migratoires. La première vague migratoire ne me concernait pas, c'était celle de mes parents, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à la France. Mais ensuite, moi, quand je quitte la France pour aller aux États-Unis, je suis dans une autre vague migratoire à laquelle on ne pense pas. Et à partir de ce moment-là, je me lance dans un sujet de recherche en étudiant les Afro-Américains, par exemple, les Africains-Américains, les Afro-Jamaïcains. Et je finis petit à petit par me poser la question de mon identité noire et française. Et ça peut faire un écho à l'une de vos premières questions. Pourquoi une identité? Pourquoi pas l'identité? Pourquoi pas la condition? Moi, j'ai choisi l'identité noire. Une identité, pardon, noire, parce que je m'interroge depuis ma trajectoire personnelle, sans me dire qu'elle fera école, sans dire qu'elle sera, je ne sais pas moi, générale. C'est un exemple. Je ne sais pas si on peut parler de l'identité noire. Je ne sais pas non plus si on peut parler de la condition noire, puisque évidemment, on peut réfléchir d'un point de vue très abstrait, d'un point de vue très science sociale, sur ces conditions, cette identité. Mais moi, j'essaie toujours de faire le va-et-vient entre mon expérience personnelle et l'expérience du groupe. Parce qu'au final, on a des objets d'études, mais ces objets d'études sont des êtres vivants. Et moi, il y a eu un moment dans ma carrière où je me suis dit, j'étudie des personnes, j'ai des objets d'études, mais je suis également mon objet d'études. Je suis une femme noire. Et qu'est-ce que ça implique? Ce qui veut dire que je ne refuse pas du tout la scientificité, je ne refuse pas la distance et l'objectivité, mais j'ai du mal avec cette objectivité totale qui repose sur une réification totale. J'aime bien prendre en compte mes impressions, j'aime bien prendre en compte même les impressions de personnes à qui je parle, que je peux interviewer, et je pense que ça peut aussi, de manière très légitime, être pris en compte dans les sciences sociales, puisque quand on a vu la signification qu'on a donnée au corps des êtres humains, il y a des conséquences. On ne peut pas me dire que être blanc, aujourd'hui je vais rester schématique, ou être noir n'a pas de conséquences. Si je vais en Jamaïque faire du terrain, et que je suis une femme noire, et que j'ai des locks, et que j'ai un prénom d'assonance africaine, avec une assonance africaine, je vais avoir des entrées. Je vais avoir des entrées. Ça ne veut pas dire qu'on va tout me donner, mais il va avoir une sorte d'intimité sur la base raciale, sur la base même peut-être d'un malentendu, puisque je peux me retrouver face à des rastas aux yeux desquels je vais représenter l'Africaine non déracinée, l'Africaine qui n'est pas partie dans les Amériques, celle qui a un nom de famille, celle qui peut revenir à une généalogie précise. Mais ça, c'est une vision qu'eux ont de moi, puisque le fait est que je suis née à Paris. Je suis née à Paris. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et je pense qu'à partir de ces réflexions sur ces thématiques, eh ben, on peut produire des choses à la fois riches et intéressantes et pertinentes et complexes, surtout. Voilà, donc c'est mon approche aujourd'hui à mon âge.
Il y a une observation tout à fait intéressante que vous faites et une conclusion que vous tirez de ces nombreuses années passées à la fois à New York et puis dans l'Hexagone, c'est vous écrivez à un moment, je ne sais pas si vous l'écrivez comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai lu, quand on est noire et française, il est plus facile au quotidien de vivre aux États-Unis. Oui. Et d'ailleurs, ça vaut dans l'autre sens aussi, quand on est afro-américaine, il est plus facile au quotidien de vivre en France qu'aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez expliquer cette espèce de...
Oui, ce que j'écris exactement, c'est à chaque nation son noir. Oui. À chaque nation son noir. Et donc la fabrication de cette catégorie noire va avoir des fonctions et avoir des modes opératoires différents selon les contextes. Donc moi, dans mon cas, quand je vais aux États-Unis, paradoxalement, je bénéficie de l'image que les Américains peuvent avoir de la France. Alors au départ, on peut se dire, j'ai entendu à l'époque, ah, il y a des Noirs en France, ou il y a des... c'est pas tellement clair, mais bon, on peut vous accepter. Une fois qu'on s'est dit que oui, elle est francophone, mais elle n'est pas haïtienne, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens aux États-Unis, je peux me voir associée facilement au prestige de la France, au raffinement français, au fait d'être sophistiquée comme une Française. Et je reste une femme noire, mais je ne suis pas la femme noire de la dispute initiale que les Africains-Américains ont avec les Blancs-Américains. Là, aujourd'hui, on pourrait parler de, je ne sais pas, 1619, qui est l'arrivée des premiers Africains qui sont devenus les premiers esclaves aux États-Unis, ou 1620, l'arrivée des premiers puritains aux États-Unis. Depuis cette période, sur cette aire géographique qui n'était pas encore les États-Unis, il y a une présence africaine majoritairement servile, même s'il y a toujours eu des Noirs libres. Et on va dire que c'est cette présence africaine et cette présence blanche européenne a des conflits depuis 4 siècles. Moi, quand j'arrive, je reste une femme noire, un corps noir, mais je ne m'inscris pas dans cette généalogie de l'esclavage, de cette généalogie de la ségrégation, de la violence, du lynchage, du mouvement pour les droits civiques. Enfin, vous voyez ? Donc, je peux jouer le rôle d'une noire pratique pour certaines personnes. Je peux paraître comme paraciste, ouverte d'esprit. J'ai mon ami noir. Voilà. Et d'un autre côté, moi, aux États-Unis, j'ai accès à des positions, notamment au sein de l'université, qui reposent fondamentalement sur les luttes menées par les activistes et par les professeurs, par les scientifiques africains-américains qui ont réussi à mettre en place, à mettre sur pied des départements de Black Studies, Africana Studies, enfin voilà, Pan-African Studies. Donc voilà, moi j'arrive et tout est fait. Je peux enseigner ma spécialité dans un département qui existe déjà et que je n'ai pas eu à construire. Donc, même au sein de l'université, il y a eu énormément, il y a encore deux conversations autour de l'obtention des postes. Est-ce que les personnes qui enseignent au sein de ces départements que je viens de nommer, est-ce que ce sont des Africains-Américains ? Est-ce que ce sont des Africains du continent ? Est-ce que ce sont des gens de la Caraïbe ? Est-ce qu'on essaye toujours de contourner le noir local, le noir indigène, l'Africain-Américain ? D'un autre côté, quand on traverse l'Atlantique et qu'on arrive en France, et dans d'autres pays d'ailleurs, mais on va dire que depuis la fin du 19e siècle, il y a eu une tradition de migration d'intellectuels, d'artistes, on pense aussi aux soldats, enfin, il y a les deux guerres mondiales sont très importantes à ce niveau-là, donc d'Africains-Américains et même de Noirs, je ne sais pas, de la Caraïbe, je pense à Claude McKay, par exemple, qui est passé par les États-Unis, qui est venu en Europe et notamment en France, qui a été jusqu'en Afrique du Nord. Eh bien, voilà, ces Noirs-là, eux, vont être associés à la puissance américaine, au degré de civilisation, américain. Voilà, ils vont jouer un autre rôle dans notre société française. Et ils ne sont pas associés, on va dire, un Africain-Américain, c'est pas un Sénégalais, c'est pas un Martiniquais, c'est pas quelqu'un de La Réunion. C'est quelqu'un, c'est un Noir, oui, mais c'est pas un sauvage. Voilà. Et donc, eux peuvent aussi bénéficier en gardant de la distance par rapport aux populations auxquelles ils pourraient être facilement de corps associés. Et donc, s'ils gardent cette distance, ils peuvent jouir d'un privilège. Et c'est pour ça qu'on a des figures telles que Joséphine Baker, qui a beaucoup fait aussi pour la France, mais qui a atteint un statut de starification qu'elle n'aurait jamais atteint dans son propre pays. Et c'est intéressant de voir que Joséphine Baker, elle peut être une noire ou une femme métissée qu'on va porter au nu en France au détriment des populations noires qui sont à l'époque dans cet empire français. Et donc, elle peut jouer une femme arabe, elle peut jouer en tant qu'actrice une femme antillaise, elle peut incarner tous ces corps-là, mais on ne deal pas avec, encore une fois, les noirs locaux. Les Noirs indigènes. On pourrait parler de Richard Wright, on pourrait parler de James Baldwin, voilà, tous ces gens qui ont un succès très marqué en France et qui, sans faire exprès, effacent un peu des choses françaises, locales, qui parlent de ces questions raciales, qui parlent de ces questions de l'identité noire. Et c'est comme si cette réflexion et ces discussions publiques autour de l'identité noire, elles ne pouvaient se faire que dans une autre langue.
En passant par une...
Voilà. Nous, on ne parle pas cette langue-là. On ne parle pas la langue raciale. On n'est pas noir. On est... Oui. C'est, nous, les Français, on ne fait pas ça. Mais par contre, si les États-Unis, les Américains viennent nous parler de ça, on peut l'entendre.
Alors justement, comment est-ce que, parce que vous faites ce constat en comparant les deux systèmes universitaires français et américains, qu'il existe dans les facs américaines, pas dans toutes, mais dans un certain nombre, des départements de Black Studies, de Pan-African Studies, de Critical Race Studies, énormément, en fait, beaucoup de disciplines qui ont acquis une reconnaissance académique à part entière et à travers lesquelles des étudiants, des doctorantes, des professeurs peuvent étudier la colonisation, son histoire, la colonialité. En France, vous dites, il y a beaucoup moins cet espace-là. Alors, à quel facteur c'est dû? Est-ce qu'il y a eu plus de luttes aux États-Unis qui ont permis d'imposer ça? Est-ce que c'est l'universalisme français qui empêche justement toujours de poser ces questions-là? Comment est-ce que...
Je pense que la question, elle est complexe. Parce que est-ce qu'il y a eu plus de luttes aux États-Unis? Non, on ne peut pas le voir forcément comme ça, mais ces départements sont nés des luttes. Ce qu'on oublie, c'est que la création de ces départements, en dehors des universités noires qui ont été créées aux États-Unis depuis la fin du 19e siècle, la création de ces départements elle date vraiment de la fin des années 60, début des années 70. Donc, c'est juste un prolongement du mouvement pour les droits civiques qu'on connaît bien en France, enfin, qu'on croit bien connaître. Mais l'une des ramifications de cette mobilisation a été la mobilisation estudiantine qui a réclamé, qui a occupé les universités, qui a mis la pression sur les universités mainstream pour la création de ces programmes et de ces départements. Ce qui a aussi mené à la création des études sur les femmes, sur le genre, sur le féminisme, des études sur les Indiens d'Amérique. Enfin voilà, c'est ce même mouvement. Maintenant, la réorganisation plus égalitaire, plus juste de la société doit passer par la réorganisation des savoirs et des savoirs valorisés et des savoirs de l'enseignement supérieur. Donc en fait, ce sont des luttes qui ont été menées et qui ont fini par être gagnées. En France, on a des luttes qui sont menées. Est-ce qu'elles ont pu pénétrer toutes les sphères de notre société? Je ne pense pas. Et je pense qu'il n'y a pas encore eu de grandes mobilisations estudiantines qui ont posé ces questions-là des savoirs. Mais tout reste à venir. Et ensuite, peut-être qu'on pourrait s'interroger sur la présence massive des populations, racialisés négativement, il y en a qui disent racisés, moi je dis toujours racialisés négativement, dans l'hexagone français. En France, on a quand même une grande dichotomie entre la France hexagonale et les territoires dits d'outre-mer, qu'ils soient actuels ou anciens. Et maintenant, dans cette ère post-coloniale, dans cette ère de migration de territoires qui étaient d'anciennes colonies ou de territoires qui sont encore dans le giron français, voilà, on est avec cette présence sur le territoire hexagonal qui est plus récente. Et on a aussi cette question de l'évolution de la citoyenneté, c'est-à-dire on va parler des nouveaux Français, mais qui du coup sont citoyens et donc du coup vont poser de nouvelles questions quant à cette vision et compréhension de la citoyenneté. Et c'est peut-être là qu'on aura ces mouvements et ces luttes à mener et surtout à gagner. Et on a ce tabou sur le... On pense pas à la race en France. Mais c'est un mythe, enfin, je veux dire, c'est ridicule.
Alors, on va y venir à la race. Avant, je voudrais sur racialiser, raciser, mais est-ce que c'est important cette distinction?
Non, c'est juste que moi, comme je suis moins familière avec les sciences sociales françaises de formation, c'est juste qu'à un moment, je me suis aperçue en revenant en France qu'en France, on disait racisé. Oui. Et sauf que moi, en tant qu'angliciste, j'utilisais déjà le terme racialisé. Mais comme la racialisation ne devrait pas laisser de côté la catégorie blanche, puisque c'est celle qui est tout le temps...
Oui, parce que souvent, en fait, c'est un problème... Je me l'étais formulé de manière, moi, un peu brouillonne, mais on dit racisé pour désigner des Noirs, des Arabes, mais pas des Blancs. Mais les Blancs, ils sont racisés aussi, simplement.
Pour moi, ma compréhension de la racisation, c'est éraciser quelqu'un, toute personne ou communauté, groupe, qui est racialisé négativement.
Ah, d'accord.
Okay. C'est comme ça que je l'entends.
Mais du coup, les Blancs sont racialisés aussi.
Ils sont racialisés, mais positivement. Positive. Donc peut-être que racisé, ça parle de la racialisation de manière exclusivement négative.
D'accord. Donc, en tout cas, bon, la question, je pense, encore plus massive que celle-ci, c'est la question de la race en tant que telle, puisque bah, c'était quand ? C'était là, on est en 2020, il y a 2 ans, le mot race a été supprimé de la Constitution française par bah, les parlementaires qui considéraient, en tout cas, c'était l'idée de ceux qui ont voté en faveur de cette loi, qu'en supprimant la race, on allait une bonne fois pour toutes abolir le racisme en coupant l'herbe sous le pied à toutes les justifications, justement, biologiques. Qui permettait ensuite de mettre en place des systèmes d'oppression. Vous, quel regard est-ce que vous portez là-dessus ? Vous dites d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant aussi dans le livre, vous dites, en France, on n'est pas seulement dans un déni de la race, on est, parce que le déni c'est quelque chose en partie qui relève de l'inconscient, c'est un processus pathologique, on est dans une dénégation volontaire de la race.
Oui. Alors déjà, je pense que dans l'effacement de la Constitution du mot race, je crois qu'il a été remplacé par sexe, je crois. Il y avait quelque chose de cet ordre, quelque chose qui devrait être de l'ordre de l'universalisme. On ne reconnaît pas la race, mais on reconnaît le sexe, mais on n'a même pas utilisé genre. Alors ce serait une victoire féministe, mais au dépit d'une victoire, enfin au détriment d'une victoire antiraciste, avec vraiment cette séparation féminisme d'un côté, antiracisme de l'autre. C'est un peu fou. Peut-être que dans, je ne sais pas, 20 ans, on se dira, bah, en fait, non, il va falloir qu'on mette la race aussi. Puis un jour, on va dire, bah, en fait, la race et le genre fonctionnent ensemble. On est juste en train de perdre du temps, à mes yeux. Après, pour revenir à cette question du déni et de la dénégation, moi, je suis convaincue que la France ne veut pas, enfin, je dis vraiment la France de manière très abstraite, mais ne veut pas parler de race. Et dans la dénégation, puisque la race existe tout le temps et depuis longtemps, et que la République, même sous l'Ancien Régime, a géré la race, a fabriqué de la race, mais souvent à l'extérieur. L'exemple le plus facile, c'est celui de l'esclavage, qui est interdit dans l'Hexagone, mais qui a cours et qui a lieu dans tous les territoires, dans toute cette France dite d'outre-mer. Et à ce moment-là, quand on édicte, je ne sais pas moi, le code noir, on a dit le code noir. Esclave et nègre, les esclaves et noirs, à un moment, c'est devenu synonyme. On sait faire ça, on l'a fait. Quand on est, je ne sais pas, on crée le code de l'indigénat et que, voilà, il y a des indigènes et des non-indigènes. De quoi on parle-t-on ? On fabrique de la race. Quand aujourd'hui encore, on s'amuse à dire que les statistiques ethniques sont interdites en France. C'est pas vrai. Elles sont interdites en France hexagonale. En Nouvelle-Calédonie, les statistiques ethniques ont cours. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a ce côté, je sais pas, comme une sorte de mauvaise foi ou quelque chose de non assumé. Mais la race, on sait très bien qu'elle existe, sauf qu'on fait comme si elle n'existait pas. On produit de la race tous les jours. Quand on parle aujourd'hui d'islamophobie, on parle de race. Quand on dit aujourd'hui que, je sais pas moi, un attentat ou une tentative d'attentat a été commise à la préfecture de Paris et qu'on insiste pour dire que la personne qui a perpétré cet attentat est née à Fort-de-France, on est en train de dire que la personne est noire. On pourrait très bien se dire, on peut être martiniquais et blanc, on pourrait très bien dire peut-être que c'est un béquet ou un descendant de béquet, mais il y a de grandes chances qu'on parle d'un noir. Mais on ne va pas dire la personne est noire, on va dire la personne est née à Fort-de-France, la personne est née à Fort-de-France. Ou quand on va parler d'un musulman, à part une déclaration qui va suivre et qui va dire c'est un Français blanc converti, on sait très bien que dans l'esprit, on est en train de dire on parle d'un arabe, on parle d'un arabe. Ou à la rigueur, on va même parler d'un noir ou d'un africain. Et ça, c'est une nouvelle question. Ça, on ne l'avait pas envisagé. Comme si on ne savait pas que, je ne sais pas moi, que le Sénégal est à au moins, je crois, 90% musulmans. Mais la catégorie noire et la catégorie musulmane ne revêtent pas les mêmes choses. Vous voyez ? Donc, la race, on en parle tout le temps, et on en parle tout le temps de manière détournée. La catégorie banlieusarde, la catégorie... je ne sais pas, on pourrait parler des Roms aussi. Voilà, c'est des catégorisations raciales qui ne fonctionnent pas toujours sur la couleur de la peau.
Mais qui sont déniés, parce que quand on dit à tous ceux qui mobilisent ce que vous venez de décrire, qu'ils sont en train de fabriquer de la race, d'entretenir de la race, tout de suite, ils sautent sur leurs grands chevaux en disant non, la race, jamais.
Jamais, puisque, et c'est ce côté-là non assumé. C'est ce côté-là qui est non assumé. Parce que ça ne va pas être frontal, ça ne va jamais être direct. Ça peut passer par les origines. Tu viens d'où? Tu viens
ouais,
d'où?
c'est cette question
c'est cette question. Et quand tu viens d'où,
ici,
moi, pour
de
moi,
Bretagne
j'entends,
ou de...
pourquoi, en tant que noir, te trouves-tu ici? Parce que sinon, qu'est-ce qui marquerait mon extériorité? Enfin, mon extériorité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qu'est-ce qui marquerait le fait que je sois étrangère ou pas d'ici? Si ce n'est mon corps. C'est tout simple. Et pour l'exemple de la préfecture de police, je disais, qu'est-ce qu'on dit? Il est né à Fort-de-France, il est né à Fort-de-France, il est né à Fort-de-France. Souvent, enfin, j'entends rarement telle personne, tel criminel ou tel terroriste est né à Gif-sur-Yvette. J'entends rarement, pardon, ce genre de précision.
D'ailleurs, il y a un point intéressant, c'est que vous racontez, vous intervenez aussi régulièrement dans les médias, et vous racontez qu'à plusieurs reprises, il est arrivé qu'on vous présente comme une universitaire américaine, alors
oui.
sans préciser que vous étiez noire, mais bon, ça, on voit que vous êtes noire. donc il était, alors que vous n'êtes pas une universitaire, vous avez fait beaucoup d'échanges aux États-Unis, mais vous êtes maître de conférences en France, vous êtes de nationalité française, vous exercez quand même en France la plupart de votre temps, donc vous êtes une universitaire française et pas américaine, mais on vous présente pourtant comme une universitaire américaine, comme si, est-ce que quelque part, du coup, l'implicite, le non-dit, c'est que pour, ce serait pas, c'est pas concevable dans l'univers mental de ceux qui vous présentent comme ça, que vous soyez française, noire et avec le titre d'universitaire, c'est ça?
Oui, pour donner un exemple, donc, en fait, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup étudié aux États-Unis, j'y ai aussi enseigné. Oui, j'ai une carrière internationale, mais vous avez raison d'insister sur cette impossibilité de m'ancrer dans l'université française. Donc, d'un côté, on va dire au niveau doctoral, je peux dire que j'ai une formation doctorale faite principalement aux États-Unis, mais le fait est que ma thèse est française et j'ai soutenu ma thèse en France avec, oui, c'est vrai, l'un des membres du jury est un spécialiste afro-américain. Voilà, je peux concéder ça. Mais il est arrivé, pour donner un exemple précis, que, par exemple, je publie un texte dans un grand média français et il se trouve que j'étais en poste à l'étranger cette année-là, c'était il y a quelques années, et je me souviens avoir lu des commentaires sur ce texte où il y a quelqu'un qui disait « Je ne comprends absolument rien de ce que cette femme raconte. Ça se voit que le texte a été mal traduit. » Parce que comme cette année, j'étais aux États-Unis, donc voilà, c'était Bennington College, Columbia University. Et donc, ces informations, avec mon nom, mais aussi avec le propos que je tenais, devenaient de fait pas français. C'est pas possible. Mais on me disait même que la langue n'était pas française, alors que j'avais écrit ce texte en français, qui est la langue que je maîtrise le mieux.
Oui.
Donc, je trouve qu'il y a parfois des petites... des situations qui vont trahir ce... ou qui vont traduire même cette impossibilité d'ancrage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si je dis ça, si je me comporte comme ça, si je tiens ces propos, ça ne va pas. Ce n'est pas français, ce n'est pas français, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Et puis, et ce n'est pas seulement, vous dites ça parce que vous venez, par exemple, de la Côte d'Ivoire, c'est non, en plus, il y a la pollution américaine, il y a quelque chose qui n'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. Et ça, je trouve ça, c'est tellement répétitif, c'est tellement même, je dirais, systématique. Il y a un ancrage, même dire « je suis noir » et pas dire « je suis black ». Dire « je suis noir » en français, c'est s'ancrer dans cette langue française et dans ce territoire français. Dire « black », c'est encore aborder cette, de manière consciente ou inconsciente, aborder cette question raciale, avec un pas de côté, avec un détour, on n'a même pas la langue. Pour moi, c'est comme dire gay, quand on utilise gay en français, comme si gay n'était pas français, comme si homosexuel n'était pas français.
Ouais.
Donc, on va prendre de l'anglais dans un pays où on a une académie française, où on a un pays qui gère politiquement la francophonie. Eh bien, il y a des mots, on n'arrive pas à les dire en français.
Ouais.
Et je pense que si on n'arrive pas à les dire en français, on n'arrive pas à les ancrer. Voilà. C'est un peu ça le thème de la réflexion tout au long de l'ouvrage, cette impossibilité d'ancrage. Et pas que je veuille être française, c'est pas ça, parce que je dis clairement que je n'en ai absolument rien à faire d'être française. Mais de fait, je suis française, c'est tout. Je suis française de naissance, C'est le pays où j'ai passé le plus grand nombre d'années dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai des papiers français et je connais et je reconnais le privilège que cela me donne quand je veux voyager. Par exemple, cette liberté de mouvement. Et voilà, c'est un pays qui compte. On n'a pas besoin de parler d'amour, d'attachement. Mais je suis française. J'ai été à l'école française. Donc pourquoi à chaque fois c'est impossible de me reconnaître comme tel? Voilà. On peut être français à sa sauce.
Et il y a un terme qui existe aux États-Unis qui est celui d'afro-américain, afro-américaine, en fait, qui permet à des Noirs de nationalité américaine de définir leur identité s'ils s'y reconnaissent. Hein, mais ils ont ce terme, il existe, il circule depuis
longtemps. Et il a été précédé par beaucoup de termes. Enfin, il y a toute une généalogie, une histoire de la nomenclature. Je ne sais pas moi, africain-américain, c'est aujourd'hui. Il y a eu noir, il y a eu avant, il y a plusieurs siècles, éthiopien, africain. Enfin, coloré, colored, de couleur. Voilà, il y a toute une histoire aussi. Et donc aujourd'hui, on en est à africain-américain et on pourra, peut-être que ça évoluera, surtout avec ce moment de migration africaine continentale vers les États-Unis. Il y a quand même des tensions, une distinction entre les africains-américains, descendants d'esclaves pour la plupart, et ces migrants africains qui arrivent depuis 1965. Donc il y a une évolution, rien n'est figé. Donc la question, en France, moi, ce que je ressens, c'est souvent cette injonction. Et il faut se conformer, il faut rentrer dans un moule et il faut rentrer justement dans cet hexagone.
Il faut choisir. Soit vous êtes français, soit vous êtes noir, mais il n'y a pas le terme afro-français ou afro-européen, même si Léonora Miano l'a proposé comme
néologisme. Exactement, et d'autres le proposent. Mais on n'a pas ça, mais on le dit. Enfin, on se définira comme on voudra de toute façon. Il y a quand même une résistance. Et je pense que vous avez raison d'insister sur l'obligation de choisir. Et comment on fait pour choisir? Moi, c'est la question que je pose. Comment on fait pour choisir si on est, je ne sais pas, aux États-Unis, ils diraient que je suis première génération française, enfin française de la première génération. En France, on préfère dire que je suis immigrée de la deuxième génération. Mais moi, je n'ai pas immigré en France, en tout cas. Je suis née là. Et on pourrait même parler des personnes qui sont venues à 6 mois ou même quelqu'un qui est venu à 5 ans et qui a passé la majeure partie de son temps en France. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On rejette nos parents, on rejette notre ascendance. On est on a des pieds dans plusieurs pays, plusieurs cultures. Pourquoi cela devrait-il être uniquement un drame?
Je reviens à ces citations que je donne de mémoire, donc excusez-moi si je les tronque un peu, mais qui m'ont vraiment frappé dans votre livre à deux reprises. Donc il y a je suis devenu noir lors de mon année, ma première année d'échange universitaire à New York. Et il y a même à la fin, dans la conclusion, vous dites je décide d'être noir. Bon, si on imagine que noir définit une couleur de peau, ces phrases-là, elles ont pas beaucoup de sens, elle paraît difficilement concevable. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire être noir? C'est ça le fond de la question.
Non, c'est ça le fond. Et je pense que la question, elle est intéressante. Vous avez eu raison d'y revenir parce que tout à l'heure, je n'y ai pas répondu. Quand je dis que je décide d'être noir, c'est que la catégorie noire, historiquement, elle a été créée comme une catégorie inférieure. Donc, évidemment, du fait de ma couleur de peau, moi j'ai une couleur de peau noire foncée, quand on me voit, il n'y a pas de doute, je suis noire. Voilà, je fonctionne comme ça dans la société. Mais quand je dis que je décide d'être noire, ça veut dire que je décide de ne pas tenter de me dissocier de cette catégorie qui a été construite comme inférieure à travers l'histoire et que je l'embrasse. Et que je regarde cette histoire noire, cette histoire afro-diasporique, dans évidemment toute sa douleur, dans tous ses tourments, mais dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. C'est-à-dire que je, intellectuellement, on va dire culturellement, politiquement, je m'associe aux vaincus. Je m'associe aux, je sais pas moi, à ceux sur qui on mise pas. Je m'associe à ceux qui auraient dû rester esclaves ou colonisés. Je m'associe à cela et j'y trouve de la beauté et j'y trouve de la puissance et j'y trouve de la force. Donc c'est en ça que je dis qu'il y a quand même une différence entre être défini comme noir par l'histoire, et ça on va dire que c'est une galère, et en fait après se dire non, moi je porte cette histoire et je la porte avec fierté et c'est important. Parce que c'est pas, on pourrait se dire que l'idéal, ce serait cet universalisme, on ne voit pas les couleurs.
De se déprendre de cette identité.
Exactement.
Alors que là, vous, c'est choisir ce qui vous a été imposé, mais en fait, du coup, le redéfinir.
Exactement. Parce que si on dirige uniquement vers l'aveuglement à la race, on pourrait très bien se dire, oui, en gros, t'es noir, mais c'est pas grave. Non, moi, je veux, par exemple, comment peut-on traiter une personne en situation de handicap? Comment on peut traiter une personne qui est pauvre? Comment on peut traiter quelqu'un qui a une identité trans, par exemple? Est-ce que le fait, c'est d'effacer ce que l'on voit de cette personne et dire « je fais comme si ça n'existait pas, c'est pas grave » ou est-ce qu'on peut donner de la valeur à ces identités-là, dans l'identité trans, dans l'identité non valide? Voilà. Est-ce qu'on peut y voir de la beauté? Est-ce qu'on peut y donner de la valeur? C'est pas seulement le dépassement. Moi, je veux qu'on me voie, qu'on me perçoive comme noir, et que noir, ça puisse aussi être beau. Que noir, ça puisse aussi être intelligent. Que noir, ça puisse aussi être tout à fait capable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on pourra et on me dira, et on m'a déjà dit que c'est comme un enfermement, mais moi, je veux qu'on voit de la beauté dans cette identité-là.
Vous disiez que noir, ça puisse aussi être beau. Je reviens au titre de votre thèse, parce que je ne l'avais pas donné, mais c'est quand même un titre magnifique, La couleur de Dieu. Alors, c'est une thèse qui compare deux mouvements nationalistes noirs en Jamaïque et puis aux États-Unis, Nation of Islam et le mouvement
Rastafari.
Et en fait, c'est aussi noir, ça peut aussi être la couleur de Dieu.
Ça peut être divin, c'est exactement ça. J'aime bien mes titres, je suis bonne en titre, je trouve.
Il est très bien choisi, La couleur de Dieu.
Mais en tout cas, oui, La couleur de Dieu, c'est exactement ça. Pour la nation d'islam ou le mouvement Rastafari, quel est l'enjeu? En gros, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que Dieu est noir ou blanc? Dans les Amériques, on en a tout à faire. Et dans le monde occidental, il y a quelque chose de politique, il y a quelque chose de subversif à dire... Dieu, c'est-à-dire que l'être parfait, l'être supérieur, tel qu'on se l'imagine, peut être dans sa toute-puissance, dans son omniscience, il peut être noir aussi. Et fonctionner aussi, aussi bien que lorsqu'il est représenté comme blanc. C'est ça. C'est pas se dire, non mais Dieu n'a pas de couleur. Non, il faut que, puisque dans ce monde, les couleurs existent et les couleurs déterminent nos rapports sociaux, eh ben, dans notre imaginaire, la puissance aussi, et c'est la puissance ultime, la puissance divine, elle peut être associée au corps noir. Et non seulement on va dire qu'il est noir, mais en plus on va dire qu'il est vivant. Voilà. Après, il y a plein de choses à dire sur la thèse, mais il y a plein de problématiques, de problèmes liés même à la tradition culturelle, politique ou religieuse nationaliste noire. Il y a beaucoup de choses à étudier, il y a beaucoup de choses à questionner, mais je trouve que les limiter à une sorte de forme de racisme exacerbé, ça n'encourage pas la pensée. Enfin, je veux dire, c'est la vision raciste qu'on a de ces groupes qui nous empêche de voir comment ils fonctionnent et sur quoi ils s'appuient. Ils s'appuient sur, à mes yeux, Nation d'Islam et le mouvement Rastafari, sur la racialisation extrême de cette ère moderne. Et que là, ça va compter de dire « Dieu est noir ». Et puisque ça a compté de dire que Dieu était blanc, et même si on ne l'a pas dit de cette façon, on l'a représenté de cette façon, donc on l'a dit. C'est comme une conversation au niveau symbolique, au niveau immatériel. Donc voilà, c'est pas seulement le dépassement. Évidemment, on rêve d'un monde où ça comptera plus, et on sait très bien que les êtres humains, on aura inventé d'autres moyens de catégoriser les autres êtres humains, d'accord? Mais là, je trouve qu'on est dans un moment de l'histoire où on a besoin de dire que cette catégorie noire, elle peut avoir de la valeur. Puis après, on passera à autre chose.
C'est quand même un horizon, un monde où ça n'existera plus, du coup? Il y aura, mais parce que quand vous dites qu'il y aura d'autres catégorisations, j'entends comme une forme de fatalisme. Alors c'est peut-être parce que moi je suis je tiens à l'utopie, mais en même temps j'imagine que vous aussi. Mais on ne peut pas penser un au-delà des catégories, même très lointain.
Mais si, c'est ce qu'on espère. Mais l'histoire montre qu'à travers l'histoire de l'humanité, on n'a fait que ça, créer des communautés et des catégories pour les gérer, pour les opprimer, pour les exclure, les marginaliser. Qu'on utilise la religion, qu'on utilise les lieux de naissance, qu'on ait utilisé les régimes alimentaires. Enfin, on a fait plein de choses à travers l'histoire. Donc après, peut-être qu'on dépassera la race, parce que la race, en tout cas ancrée dans le corps, n'a pas toujours existé. Il y a un moment, il y a eu des moments dans l'histoire où c'était pas ça le problème d'être blanc ou noir. C'était pas ça. Donc peut-être qu'on va le dépasser, mais moi je me dis peut-être pessimiste. Quand on le dépassera, on inventera d'autres moyens de je ne sais pas, est-ce que ça sera la couleur des yeux, est-ce que ça sera la taille, est-ce que ça sera le... Comment ?
Le lobe d'oreille.
Le lobe d'oreille. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que les gens qui croient qu'on est obsédé par la race, je trouve qu'ils ont une vision de l'histoire très limitée. Moi, je reconnais et je sais très bien que cette façon de gérer les corps humains est plutôt récente dans l'histoire de l'humanité. J'en ai conscience. On l'a inventée, donc on pourra la déconstruire. Et c'est ce qu'on espère, ça, c'est sûr. Oui.
On l'a inventé, c'est une construction, c'est une fiction, mais c'est pas parce que c'est une construction que c'est pas solide.
Qu'elle n'a pas de conséquences.
Cette fiction, elle s'est inscrite dans les corps, en fait.
Elle s'est inscrite dans les corps. Et après, les gens vont toujours me parler, par exemple, du métissage ou des choses comme ça. Et bien sûr, et c'est ça les ambiguïtés, c'est ça la complexité, c'est ça qui met en lumière l'absurdité de la race. Parce qu'au final, quand on se dit entre le plus foncé des blancs et le plus clair des noirs, quel est cet être humain qui, incarnerait la frontière ? Et on sait très bien que ça n'a pas de sens, et c'est ce qui explique le phénomène du passing aux États-Unis. Les noirs à la peau claire qui arrivaient à avoir des vies sociales de blancs.
Comme dans La Tâche de Philip Roth.
Voilà. Et que, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Et la peur d'être connu, ou la peur, par exemple, d'avoir un enfant à un moment et qu'il va ressortir noir. Mais en tout cas, c'est possible de vivre socialement comme un blanc. Donc la race dans le corps, elle n'a pas toujours de sens. Il y a des fois, on peut très bien avoir du sang blanc ou noir et ça ne se voit pas physiquement. Ou qu'est-ce qu'on fait de ce cas de cette Sud-Africaine qui est née métissée dans une famille de blancs ? Elle avait deux frères qui sont sortis blancs. Elle est sortie métissée. Ses parents étaient blancs. Et il se trouve juste que dans sa famille, je crois que c'était dans les années 50, il y a eu du sang noir à un moment qui est ressorti sur elle. Et ce qui est ridicule et tellement intéressant dans cette histoire, c'est que ses parents se sont battus juridiquement pour la faire reconnaître comme blanche, parce que les catégories, en tout cas en Afrique du Sud, sont des catégories juridiques. Et donc, eux l'ont fait reconnaître comme c'était leur fille naturelle. Elle a été reconnue par la loi comme blanche. Sauf que dans la vie de tous les jours, elle était traitée comme une noire. Et les parents d'élèves de son école ne voulaient pas qu'elle aille dans la même école. Enfin, voilà, c'est une histoire complètement folle. C'est une histoire complètement folle qui nous montre les limites, mais les effets, comme vous avez dit, très concrets. Très concret, c'est-à-dire quand un corps d'une certaine couleur entre dans une pièce, se rend quelque part, passe une frontière, qu'est-ce qui se passe quand on le perçoit ? Ou qu'est-ce qui ne se passe pas ?
Je vais à nouveau vous citer, vous écrivez « Je suis une personne dominée dans un pays dominant » et au sens où vous bénéficiez aussi aujourd'hui, parce qu'il y a en France une certaine richesse, elle est rendue possible par quoi ? Notamment par les politiques néo-impérialistes de la France, au Mali, mais aussi au Tchad et dans tout un tas d'autres pays. Et en ce sens, oui, c'est ça, dominée dans un pays dominant, vous dites « Je me sens à la fois bourreau et victime », c'est intéressant ça. Vous poussez même le cran un petit peu plus loin. Là, vous passez du jeu au nous, mais vous écrivez, je l'ai noté parce que ça m'intriguait. Nous passons pour des blancs auprès de nos parents et de ceux restés au pays. Et d'une certaine façon, nous le sommes, donc blancs de façon amoindrie, mais nous le sommes. C'est très intéressant.
Mais c'est ça, on est des. Quand on est issu de cette immigration récente, on peut, je ne vais pas dire que c'est constant, mais on peut être en lien avec la famille ou la communauté du pays d'origine. Et on peut se rendre compte, selon les milieux sociaux, évidemment, mais de manière très concrète, des différents niveaux de vie. On peut me parler, moi, par exemple, de l'immigration illégale, des sans-papiers. On peut parler, aujourd'hui, on va parler des réfugiés. Mais les sans-papiers, les réfugiés, ça peut être quelqu'un de ma famille. Donc, c'est pas seulement une nouvelle à la télé ou quelque chose que j'ai lu sur Internet ou un art. C'est concrètement mon cousin, ma cousine, mon oncle, ma tante, comment ils vivent. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi aussi? Et qu'est-ce que je peux faire d'eux? Et s'il y a quelqu'un qui est prêt, à traverser un désert ou à traverser la Méditerranée, à donner sa vie pour venir ici, moi, je suis d'ici. Même si je ne suis pas contente ou même si je suis maltraitée, j'ai un passeport français, j'ai une carte d'identité française. Et même si, je ne sais pas moi, je vais me faire contrôler par la police abusivement ou que je vais vivre des choses, au final, je sais que j'ai des papiers français. Je m'en sortirai. On peut me faire perdre mon temps, on peut m'énerver, on peut me harceler, mais en tout cas, je sortirai de ce commissariat. Je sortirai de cet aéroport. Donc, pour les gens du pays, et même le fossé, il commence même avec ses propres, peut commencer avec ses propres parents, bien sûr qu'on est des Blancs. On est des Français. Et on n'est pas comme eux. Et on a des privilèges auxquels ils n'ont pas accès. Ça, c'est une réalité et qu'il faut pouvoir gérer. Mais là, je parle vraiment de manière intime. Ce n'est pas seulement une manifestation pour les réfugiés, pour les sans-papiers. C'est à l'intérieur même des familles. On est des Blancs. Et ce n'est pas, c'est pas toujours agréable, ce n'est pas toujours facile. Il y a la question de la culpabilité, la question de la loyauté. Tout ça, ça, ce sont les histoires intimes qui, j'espère, seront racontées de plus en plus, mais de manière nuancée.
Ces questions de la culpabilité, de la loyauté, oui. De parfois le sentiment de trahir même, oui. De tourner le dos en tout cas à une partie des siens et des siennes, elles sont aussi liées, bon vous en parlez moins dans l'ouvrage, mais c'est quand même déterminant aussi dans votre trajectoire, au fait que vous êtes une transfuge, oui. De classe. Enfin, oui. Vous avez grandi en HLM, je crois que vous le dites, vous avez... toujours eu des bourses, et puis bon, vous êtes passé à un statut social qui n'est plus le même aujourd'hui. Exactement. Ça aussi, c'est
oui, ça aussi, c'est un voyage.
Presque un miracle social.
Voilà, c'est le miracle qu'on essaie d'utiliser comme... qu'on essaie de
comme
présenter comme...
Au fait que...
Voilà, et comme système. Enfin, je suis le pur produit de la méritocratie. Mais on est très rare. On est très rare. Enfin, à ce niveau de pauvreté, on est très rare. On pourra pas... Enfin, je veux dire, ça, c'est... je le constate au quotidien. C'est possible, on va me dire, oui, bien sûr que c'est possible, mais je trouve cela très injuste. Quand je pense à ce que j'ai dû faire, à la charge de travail, enfin, c'est pas possible de réclamer la réussite des individus sur cette base. Ce que j'ai fait, j'ai été capable de le faire, mais je ne le souhaite à personne. Et je trouve que c'est injuste de demander ça à des jeunes. Mais moi, d'un côté... je viens d'une famille tellement pauvre, c'est même pas seulement la banlieue, la HLM. Nous, on était vraiment, enfin, c'est un cas spécial, quoi. Donc, on était tellement pauvre que peut-être que c'est ce qui m'a poussé à tout vouloir, parce qu'il y avait absolument rien à perdre. Enfin, il y avait tout à gagner, et même les services les plus basiques. Donc, ouais, ce voyage de, enfin, ce transfuge d'une classe à une autre, ça soulève des questions. On arrive, par exemple, vous soutenez votre thèse, vous devenez maître de conférence, et par exemple, vous évoluez avec des gens qui sont vos collègues, et vous êtes censé arriver dans un niveau de vie qui vous placerait à égalité des autres, avec les autres collègues qui ont le même salaire, techniquement. Sauf que vous avez le même salaire à cette année zéro. Mais qu'est-ce qui se passe d'avant, les années d'avant? Donc, en vérité, aujourd'hui encore, je peux me dire, je vis comme mes collègues, mais je ne vis pas comme mes collègues. Pour moi, ces mouvements d'une classe sociale à l'autre, pour moi, c'est comme des mouvements d'une langue à l'autre. Je parle plusieurs langues. Et il y a plusieurs codes qu'il faut manier. Et peut-être que pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est... c'est ça, décider d'être noir. C'est-à-dire que ne pas oublier d'où je viens, même si j'ai accès à de nouveaux cercles et de nouveaux espaces qui peuvent être plus confortables, plus agréables. Il y a une conscience qui reste. Il y a une conscience et il y a un souvenir. Il y a une mémoire et puis il y a une pratique quotidienne. Parce que moi, je fais partie d'une fratrie. Enfin, voilà. Si moi, je fais ça, qu'est-ce que font les autres?
Le seul avantage, s'il y en a un, à être transclasse, c'est que vous arrivez dans un milieu, dans un monde, on pourrait presque dire, qui vous était étranger.
Oui, oui.
Et vous avez la possibilité de confronter les codes, les coutumes, et les règles de ces milieux. Et peut-être que là, je parle à l'intellectuel, à la chercheuse, peut-être que du coup, ce regard comme ça, plus, qui englobe le plus largement et qui permet de confronter des milieux, il a un intérêt en termes épistémologiques.
Ah oui, il a un intérêt. Il est très intéressant. Enfin,
vous-même, même dites que le vécu est digne de, des livres, des enseignements, des enseignements scientifiques. Et là, quand on a deux types d'expériences, pour le dire un peu schématiquement, et deux types de vécu, c'est encore plus riche.
Non, c'est, en tout cas, c'est enrichissant, mais ça peut être aussi pesant, cette position toujours extérieure à ce nouveau cercle et extérieure d'une façon aussi à cet ancien cercle. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui gagnent le SMIC, vous ne gagnez plus le SMIC et ce sont vos amis. Et comment ça se passe au quotidien? Si je suis en train de pleurer parce que ce mois-ci, je n'ai pas assez d'argent pour aller à New York. Enfin, voilà, je veux dire, je vais à New York régulièrement. Enfin, vous voyez.
Ouais, bien sûr.
Et d'un autre côté, dans l'autre cercle, il y a tellement un fossé avec la vision des autres classes sociales. Si vous parlez avec des gens qui vont vous parler de la banlieue, qui vont vous parler de l'islam, qui vont... La banlieue, j'en viens. L'islam, je sais pas, c'est ma merde. Donc, qu'est-ce que... C'est pas un objet d'étude, c'est nous, c'est moi. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et comment toujours devoir essayer d'apporter de la complexité, de la nuance, un contre-discours, ça aussi, c'est fatigant.
Mm-hmm. Oui, bien sûr.
C'est parce que c'est d'être dans la traduction permanente.
Alors, vous en aviez déjà parlé dans un texte qui avait été publié, je ne sais plus, dans Libération peut-être, que
oui.
Je ne tombe pas, de la charge raciale. Avec la charge raciale qui
D'accord.
fait écho évidemment à la charge mentale. C'est vraiment ça, là, ce que vous êtes en train de décrire. C'est, en plus d'avoir à vivre toutes les discriminations et les inconvénients et les injustices dont il est question, c'est à nous. En tout cas, tels que les rôles sont répartis aujourd'hui, ouais. d'aller expliquer aux dominants et aux blancs ce dont il est question, comment ça fonctionne et comment s'en défaire s'ils veulent s'en défaire.
Exactement.
Mais c'est à vous. C'est que...
Conseiller les gens, leur donner des bibliographies, leur expliquer ce qui se passe vraiment. Donc, d'un point de vue intellectuel et professionnel, mais après, même dans les interactions avec d'autres personnes. J'ai parlé à ma collègue, elle s'est vexée, qu'est-ce que j'ai fait Enfin, voilà, d'être donc paradoxalement identifiée comme la noire. À laquelle je peux... Donc, on reconnaît que je suis noire à ce moment-là. Et cette noire-là va m'éclairer. Ou cette noire-là a quelque chose d'intéressant à dire. Mais avec un caractère précieux qui, encore une fois, paradoxalement, n'est pas toujours reconnu. C'est-à-dire que ce n'est pas une expertise. Donc, ce n'est pas rémunéré. Ce n'est pas du travail. Mais c'est du travail quand même émotionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que... Si on va vous dire, on a besoin d'inviter quelqu'un pour parler sur tel sujet, vous venez mais gratuitement. Et quand on va inviter quelqu'un pour parler sur un autre sujet, oui, là, ça va valoir, je ne sais pas moi, taxi, repas, enfin voilà, c'est de la gratuité en permanence, c'est de la traduction en permanence, et de la traduction pour qui la pratique, c'est extrêmement fatigant, c'est éreintant. Et ça donne une responsabilité, vous êtes toujours en représentation de, je ne sais pas moi, des Noirs du monde ou des Noirs de France,
ah oui.
et c'est ça la charge, c'est ça la responsabilité. Vous avez un rôle à jouer en permanence, on ne vous laisse pas tranquille. Et en plus, quand vous voulez jouer votre propre rôle, ce n'est pas toujours aisé. Donc, pour moi, la charge raciale qui, à l'origine, j'ai utilisée, mais vraiment facilement, parce que je voyais que dans les médias, voilà, ils avaient eu accès à la question de la charge mentale. Donc, je me suis dit, c'est un exemple parfait. Je vais parler de quelque chose qu'ils connaissent pour arriver à autre
passer,
chose.
Hein.
Mais... Ça veut dire que de moi-même, je me pose déjà la question.
Ouais.
Comment je peux leur parler pour qu'ils comprennent? Alors, qu'est-ce qu'ils comprennent? Moi, je connais leur monde, je connais leur code, je connais leur culture, et eux ne me connaissent pas, ne me connaissent jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui peut être fatigant. Quand Mme Fatou Nyang, qui enseigne aux États-Unis, dit sur Twitter, parle de mai 67, et qu'il y a quelqu'un qui a l'audace et l'arrogance de lui dire... De toute façon, vous vous trompez, c'est mai 68. Je me dis, il y a du travail à faire. La personne préfère disqualifier Mam Fatou Niang en disant il y a des Américains qui sont assez bêtes pour vous donner un poste parce que vous ne maîtrisez même pas la chronologie de l'histoire française. Mmh. Et encore une fois, c'est l'histoire française hexagonale. Mmh. Avant 68, il y avait eu mai 67. Et c'est vous qui ne connaissez pas mai 67. Mmh. Et donc, nous, on est obligés de faire, je ne sais pas, une thèse sur mai 67, se battre pour enseigner, je ne sais pas moi, cette thématique, publier sur le sujet pour qu'après, on daigne avoir une conversation sur d'abord mai 67 et après, la mettre en relation avec mai 68. Vous vous rendez compte le temps qu'on a perdu ? Parce que nous, ça fait longtemps qu'on connaît mai 67. Et tant que vous, vous ne connaissez pas, on ne peut pas avancer. Alors si aujourd'hui, vous avez décidé que l'intersectionnalité, c'était à la mode, qu'on va parler de diaspora, transnationalisme, moi, je me dis, personnellement, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions. Ce n'est pas des questions nouvelles. L'Atlantique noir qui vient d'être, je crois, qui a été traduit de Paul Gilroy, qui a été traduit depuis 2009, mais qui a été réédité en 2013 ou 2016. Il est sorti en 1993, l'Atlantique noir de Paul Gilroy. Donc c'est ça la charge raciale, c'est avoir, je vais pas dire l'impression parce que c'est un fait, c'est perdre son temps constamment, perdre son temps en attendant l'éveil de l'autre. Et l'éveil de l'autre, ces catégories blanches et noires, elles fonctionnent au-delà des corps. Donc là, je veux vraiment insister sur le fait qu'on peut très bien être noir et avoir une pensée, je ne sais pas moi, dominante, blanche et tout ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas que le corps, mais c'est aussi le corps. Il y a matière à réflexion et parfois, je trouve que les débats sont tellement limités à une ignorance et à une simplification. La race n'a rien de simple. La race n'a rien de simple. Les processus de racialisation n'ont rien de simple. Mais je me dis que si on ne peut pas réfléchir, et d'un point de vue vraiment intellectuel, scientifique, si on ne peut pas discuter, réfléchir, ça ne m'intéresse pas. Hein, ça m'intéresse pas. Et parfois, je trouve que l'université, elle est sclérosée. Et c'est pour ça que je fais tant de choses à l'extérieur de l'université.
Il y a un terme que vous avez utilisé, celui de privilège, qui revient à plusieurs reprises dans le livre aussi. Je voulais vous interroger sur une notion que j'ai découverte assez tardivement, mais qui est celle de privilège blanc. Oui. Il y avait Peggy McIntosh qui avait écrit là-dessus. Moi, c'était, quand j'ai découvert cette notion, elle m'a été particulièrement utile parce que ça a permis de... Ça, en fait, elle permet... C'est un concept, pour moi, il est utile quand il permet de comprendre des choses qui se passent que je ne comprenais pas bien.
Bien sûr.
Et typiquement, il permet de comprendre que on peut, en tant que blanc, tout à fait bénéficier de l'ordre racial sans être raciste pour un sou dans ses propos, ses idées, etc. Oui. Ça permet aussi de comprendre que le racisme, du coup, c'est pas seulement une affaire de stéréotypes, de préjugés, mais aussi, c'est dans les structures, c'est des privilèges, précisément, comme le dit la notion de privilège blanc. Et en même temps, pour des raisons, mais je vais peut-être pas le développer, c'est vous que je voulais poser la question, pour d'autres raisons, je me demande s'il n'y a pas certaines limites aussi. Enfin, je voulais vous entendre sur cette notion.
Oui, je pense qu'il y a des limites, mais qu'en tout cas, si on arrivait à sonder pleinement et discuter de cette blanchité, il y a tellement de choses à y trouver, à y puiser. Moi, quand j'ai commencé à me familiariser avec les whiteness studies, c'était vraiment avec David Rodiger, le salaire de la blanchité ou des choses comme ça, où il y avait des, même depuis les années 90, comment les Irlandais sont-ils devenus blancs, l'arrivée des Irlandais aux États-Unis et l'impératif non négociable de se dissocier de la communauté africaine-américaine, alors qu'il y aurait pu avoir des interactions sur la base d'intérêts communs. Et qu'est-ce qui a fait division ? C'est la race. On n'est pas, on est pauvre, on est des immigrés, mais on n'est pas noir. Voilà. Les études sur la blanchité, c'est ce que ça apporte. Moi, avec ma formation dans les Amériques, ce que j'essaye d'expliquer aux étudiants, par exemple, c'est qu'aux États-Unis, la plupart des Américains n'étaient pas propriétaires d'esclaves. C'est ça le fait. Ils n'étaient pas propriétaires d'esclaves. Donc, cette question d'esclavage, cette question de la race, ce n'est pas seulement dans la possession ou nos possessions. Mais ce qui est intéressant d'étudier, c'est ce qu'on appelle l'économie raciale. On pouvait être propriétaire d'esclaves ou non, mais en tout cas, si on était blanc, on bénéficiait du statut des propriétaires d'esclaves. Et on pouvait, par exemple, faire partie de la police des chasseurs d'esclaves qui étaient en fuite. C'est ça le privilège. C'est ça le... je ne sais pas, quand on parle des discriminations, de se dire... je ne sais pas, je ne suis pas raciste ou j'aime tout le monde, sauf que s'il y a quelqu'un qui est discriminé au logement, eh ben, une personne blanche peut bénéficier de l'appartement qui est resté vacant parce qu'on ne l'a pas donné à une personne non blanche. C'est ça. Donc au moins, après, une fois qu'on prend conscience de ça, qu'on l'accepte, qu'on l'interroge, qu'on le questionne, après on verra les limites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je trouve que parfois, limites et les critiques...
Si les limites arrivent avant, mais, voilà. une fois qu'on a intégré ça, parce qu'en fait, je vous dis les limites moi, que j'avais en tête, je me disais, si par exemple, on utilise cette notion de privilège blanc pour dire... Moi, en tant que blanc, dans le métro, dans Paris, je me balade, effectivement, je ne me ferai jamais contrôler, oui. Alors qu'un homme de mon âge, noir ou arabe, a 8 ou 10 fois plus de chances, oui, de se faire contrôler. Est-ce que ça, il faut appeler ça un privilège blanc, alors qu'en fait, pouvoir marcher dans la rue et être en sécurité sans se faire contrôler, voire violenter, oui, par la police, ça ne devrait pas être vu comme un privilège, c'est juste un droit élémentaire de base. Et même dans l'idée de privilège, comme on pense tout de suite... Enfin, en tout cas, moi, je pense tout de suite à la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Oui, je me dis qu'il faudrait me retirer ça, alors que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de donner ce droit, justement, à d'autres qui n'en...
Non, je pense que votre approche, elle est hyper intéressante. Parce qu'il y a les petits et les grands privilèges. C'est vrai. Oui. Enfin, donc, quand on pense tout de suite à privilèges et qu'on pense à l'abolition des privilèges de la Révolution française, pour les gens, on va dire, oh, c'est pas ça. Mais il y a des petits gains, des petits profits. Et c'est ça qu'il y a le plus souvent. Quand on parle du racisme, c'est pas la peine de s'imaginer, je sais pas, un lynchage. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. C'est pas la peine de s'imaginer un skinhead qui va courir après des Noirs ou des Arabes avec une batte. Ça, c'est l'extraordinaire. Ça, c'est le spectaculaire qui compte aussi. Mais c'est des petites choses qui font système. Et après, je trouve ça très intéressant quand vous parlez du privilège, enfin, en tout cas, du droit fondamental à pouvoir marcher dans la rue, à se mouvoir en toute liberté, le droit à la mobilité, qui est le droit le plus fondamental. Quand on regarde l'esclavage et sa gestion, par exemple, c'est le premier des devoirs, c'est entraver la mobilité des esclaves et des Noirs libres. Même les Noirs libres, on a besoin de passe, on a besoin... Vous voyez ce que je veux dire? C'est la mobilité, le mot. Aujourd'hui, on pense aux frontières, les passeports, les visas... C'est notre droit le plus fondamental. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant que vous ayez mentionné ça, parce qu'en vérité, le droit de pouvoir, je ne sais pas moi, naviguer à travers l'espace public en toute liberté, c'est un droit humain. C'est un droit d'être humain. Et en fait, une chose que l'on pourrait évoquer pour cette identité blanche, c'est l'identité la plus humaine, la plus intégralement humaine. C'est ça que ça veut dire être blanc. C'est ne pas être déchu de ses droits d'être humain. Et les identités racialisées défavorablement, on leur enlève des degrés d'humanité. Blanc, c'est humain. On aimerait que humain soit humain, mais l'humain, il a été conçu comme blanc. C'est ça qui fait la différence entre la vie et la mort, le mouvement et l'entrave au mouvement, la pauvreté et la richesse. C'est comme si blanc, ça veut dire, je ne sais pas moi, masculin. Blanc, c'est hétérosexuel. Blanc, c'est riche. Blanc, c'est valide. Au-delà de l'approche de la peau, blanc, c'est l'humanité à 100%. Et après, selon les catégories, on va être à 95% d'humanité, 90, 88, 87, enfin, vous voyez ce que je veux dire, 70, 22. C'est ça. Blanc, c'est humain. L'humanité a été construite comme blanche. Et ce serait la seule qui compte. Mais on sait que ce n'est pas vrai. Et c'est ça qu'il faut regagner. Le droit, comme vous l'avez dit, fondamental de chaque être humain, le droit à marcher dans la rue comme il veut.
Alors, on arrive bientôt vers la fin de cette émission, mais il y a deux sujets importants que je voulais qu'on aborde avant ça. Je voulais recueillir votre regard sur l'État et les évolutions de la gauche française vis-à-vis, de manière générale, aux questions qu'on a abordées depuis le début de l'entretien. Ça, c'était le premier point. Et l'autre, ce sera sur un certain nombre de polémiques qu'il y a eu autour de... Enfin, là, je pense aux suppliantes, à Exhibit B, enfin, voilà, mm-hmm. les questions de l'art, parce que je pense que c'est important aussi. Mais bah, peut-être qu'on peut, on peut commencer par là. Mm-hmm. Je crois que vous aviez pris position. Alors, c'était au moment... en tout cas, vous, j'avais vu que vous aviez co-signé un texte il y a un an de ça, quand il y avait cette représentation à la Sorbonne des suppliantes, oui, où les ouais. acteurs mm-hmm. reconduisaient cette pratique d'origine esclavagiste, mm-hmm. du blackface. Mm-hmm. L'actualité française, et régulièrement comme ça, ponctué de polémiques. Il y avait eu Exhibit B ouais. avec la reproduction de zoos humains. Il y a aussi, alors cette fresque, elle est à l'Assemblée nationale ouais. depuis très longtemps, elle y est toujours, de Hervé Di Rosa, peut-être ouais. que Raphaël nous la mettra. Où on, alors elle représente, selon son auteur, une chaîne, il y a une chaîne brisée, ouais, donc ouais, c'est, ça, ouais. c'est l'abolition de l'esclavage, ouais. mais en même temps, elle représente des Noirs avec les pires stéréotypes possibles ouais. De l'époque, justement. Ouais. Et bon, ces polémiques, elles sont compliquées, hein. Les enjeux ne sont pas exactement non plus les mêmes à chaque fois, mais quand même, si j'essaye de modéliser le débat, on retrouve d'un côté alors, les auteurs de ces œuvres d'art eux-mêmes qui vont évidemment défendre leur production au nom de l'autonomie de l'art, de la liberté de la création et de la liberté d'expression, et qui vont dénoncer le politiquement correct, la censure, etc. etc. Et de l'autre côté, bah, y a les différentes personnes qui remettent en question, enfin, je ne crois pas... À mon sens, ça n'appelle pas à la censure, je n'ai pas vu ça moi, mais qui pose des questions sur ces œuvres d'art en soulignant le fait que bah, ça a beau être des œuvres d'art, et même en tant qu'œuvre d'art, c'est des œuvres culturelles, donc elles véhiculent des représentations qui peuvent être chargées de stéréotypes et même des pratiques. Quand on parle d'un zoo humain, même si ça ne se veut pas un vrai zoo humain, mais de fait, ça reproduit quand même des pratiques qui ont existé. Voilà, je suis désolé, je suis un peu confus, mais je voulais savoir, vous, comment vous regardiez ces polémiques qui ressurgissent quand même à intervalles réguliers.
Oui. Alors, pour la première des polémiques, je vais encore me tourner vers Mam Fatou Niang, qui a déterré le terme barbouillage pour parler du blackface. Mm-hmm. Et j'aime bien cette utilisation parce qu'encore une fois, ça permet d'ancrer dans la langue française et dans la psyché française le terme. Parce que sinon, ça le rend encore extérieur et ce n'est pas nous. Donc, pour les questions de se grimer, Exhibit B, Di Rosa, c'est la question de la représentation dans l'espace public. Di Rosa, qui fasse sa fresque, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais comme vous l'avez souligné, il y a les stéréotypes les plus communs sur la représentation du corps noir qui sont là et qui sont sélectionnés, choisis pour représenter l'abolition de l'esclavage. On dirait que c'est une farce, en fait. Parce qu'on aurait pu prendre autre chose. Mais à ce point-là, où peut-être qu'on essaie de se dire qu'on a tellement étudié la question, on est tellement au fait des enjeux de cette représentation que maintenant, on peut mettre n'importe quoi parce qu'on a dépassé cette question, comme dans cette utopie que vous avez évoquée tout à l'heure. On en est là, on a traité le sujet, on l'a critiqué, on a trouvé des solutions. Maintenant, on est tellement passé à autre chose que maintenant, ça ne compte pas que ce soit une sorte de caricature. Non, on n'en est pas là. C'est pas possible. Et ne pas accepter ne serait-ce que de se poser des questions. Réfléchir. Moi, souvent, évidemment, il y a des textes que je signe, mais moi, je suis pas une militante. Signer un texte, ça me coûte rien. Enfin, c'est pas moi qui suis au cœur de ces mobilisations. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est l'impossibilité à la discussion. C'est l'impossibilité. On ne peut pas poser de questions. Il y a certains sujets qui ne sont pas dignes de débat. De débat, vraiment, de réflexion et d'échange. Et surtout, et vraiment, on a comme une crispation qui, à mes yeux, justement, dit tout des enjeux. Sinon, il n'y aurait pas de crispation. On pourrait très bien dire pour ou contre la pyramide du Louvre. Le moderne dans l'ancien, enfin, qu'est-ce que ça fait joli, ça ne fait pas joli, c'est un choc. On en discute. Là, il y a vraiment c'est dur, on ne peut pas en parler. Et bien justement, cette impossibilité à en parler, cette violence et la violence de ce silence, c'est ça qui nous dit tout. Mais aujourd'hui, au moins, c'est un peu plus explosif Alors qu'avant, enfin, je pense même aux années 80, ou même jusqu'à 90, ça n'aurait même pas été un sujet de débat public. Il n'y aurait pas eu de confrontation, il n'y aurait pas eu d'interpellation publique audible. Évidemment que les gens se sont toujours élevés contre ou essayés de faire des manifestations, mais on n'en avait absolument rien à faire. Maintenant que les gens aient quand même un peu à se justifier, tremblent un peu, perdent un peu de leur bien-être et de leur confort, c'est ça l'avancée, malheureusement. C'est tout petit, mais c'est une avancée quand même. Ouais. Que les gens, moins crient et s'énervent et perdent le contrôle en disant « ce n'est pas raciste !» Voilà, c'est ça. Avant, ils n'avaient pas besoin de le dire. Et l'argument, par exemple, pour dire ça, de dire que à l'époque où ça a été installé, cette œuvre a été installée à l'Assemblée nationale, ça n'a pas fait de remous. Bah, ça n'a pas fait de bruit parce que les gens de l'époque n'ont pas réussi à faire du bruit. Là, aujourd'hui, les gens ont réussi à faire du bruit. C'est ça l'avancée. Sinon, on sait très bien, on n'a pas besoin d'attendre 2019, 2018 ou je ne sais pas quoi pour regarder ça. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas la peine aussi non plus de dire il ne faut pas regarder... le présent avec les yeux enfin, le passé avec les yeux du présent, c'est pas vrai. À chaque époque, il y a toujours eu des voix qui se sont élevées, qui n'étaient pas d'accord avec l'ordre en place. C'est juste qu'elles n'étaient pas audibles ou qu'elles n'avaient pas assez de poids politique. Mais à chaque moment, quand les femmes ne votaient pas, elles n'étaient pas contentes de ne pas voter. Quand elles n'avaient pas le droit à l'avortement, elles savaient très bien qu'elles n'y avaient pas droit et que c'était un problème. Quand les gens étaient colonisés, elles savaient très bien qu'ils étaient colonisés. Et si on parle de l'esclavage, les gens n'étaient pas contents. Dans leur grande majorité, donc on va toujours me dire, oui, il y en a sûrement qui étaient, il y a toujours quelqu'un qui est content quelque part. Dans leur grande majorité, les gens n'étaient pas contents d'être esclaves. Les gens ne sont pas contents d'être au chômage. Les gens ne sont pas contents de vivre dans la rue. Les gens ne sont pas contents de se retrouver sans papier quelque part. Les gens ne sont pas contents de couler dans la Méditerranée. Je veux dire, ils ne sont pas contents aujourd'hui et ça ne sera pas la peine, je sais pas, le siècle suivant, de dire non, il ne faut pas regarder cette période-là avec nos yeux d'aujourd'hui. Les êtres humains ont exprimé leur mécontentement systématiquement. Maintenant, est-ce qu'ils ont la puissance, est-ce qu'ils ont accès aux moyens d'être audibles? Ça, c'est une autre question, c'est la question politique. Mais il ne faut pas, je veux dire, c'est ridicule de penser comme ça. C'est ridicule et c'est de la pure mauvaise foi parce que, justement, ça, je sais que j'en parle aussi, mais on s'appuie sur ce passé pour justifier la puissance présente. On s'appuie sur la grandeur de la France et sa grandeur culturelle. On pourrait parler de la restitution des œuvres d'art. Qu'est-ce qu'il y a au Louvre, entre autres? Voilà, on s'appuie sur ce passé pour dire, voilà, c'est la France quand même. Mais on ne veut pas s'appuyer sur toutes les facettes du passé.
Les autres facettes.
Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout détruire. Je suis juste en train de dire qu'il faut tout dire. Tout dire.
Quel regard, justement, pour finir, vous portez sur ce présent et en particulier sur la gauche française, au sens de ses partis et ses syndicats. Moi, j'ai eu le sentiment que, bon, je prends un événement, mais il y en aurait peut-être mille autres à prendre, mais la marche du 10 novembre dernier contre l'islamophobie, où, aussi bien la CGT que la France insoumise étaient présentes. Moi, je me suis demandé si on ne pouvait pas y voir l'indice quand même que cette gauche... prenez un petit peu plus que par le passé en considération les questions posées par, j'allais dire l'antiracisme politique, mais c'est une appellation que vous n'aimez pas trop pour décrire cette...
Enfin, c'est une appellation médiatique.
Oui, c'est celle qui s'est un peu imposée.
Voilà, ou les décoloniaux, ou des choses comme ça. Enfin, oui. Quand on est dans l'université, on sait très bien que les études décoloniales, c'est une branche particulière. Enfin, ça montre juste l'ignorance de... Donc voilà, mais racisme, antiracisme politique, je vois de quoi vous parlez. Mais je pense que la gauche, elle n'a pas le choix. La CGT comme la France insoumise, ils avancent parce qu'en leur sein même, il y a des profils différents et nouveaux et qui incarnent eux-mêmes ou qui sont plus sensibles ou plus à même de comprendre les évolutions du pays. Donc ne serait-ce que pour survivre, enfin, c'est dans l'ordre des choses. ils sont obligés d'évoluer sur la question parce qu'on ne peut plus, ils ne peuvent plus fermer les yeux, ils ne peuvent plus, il n'y a plus cette domination paternaliste, il y a plus, c'est terminé, mais c'est terminé parce qu'on est là, parce qu'on a grandi, que parce que maintenant tout le monde a 40 ans, 50 ans, 60 ans, parce qu'il y en a qui ont des diplômes ou pas, parce qu'on est là et que personne ne va repartir massivement. Enfin, ce moment-là n'arrivera pas, je crois, et j'espère. Et donc, c'est juste que maintenant, c'est juste gérer la réalité. La réalité, pas le fantasme, la réalité. Et la réalité, c'est que, je ne sais pas moi, Danielle Obono, elle fait partie de la France insoumise. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Et qu'elle est à l'Assemblée nationale maintenant. Donc, je veux dire, il faut arrêter les mythes, les délires, les projections. Le fait est que les gens sont là et vivent ensemble. Vivent ensemble, c'est pas seulement... c'est pas le vivre ensemble institutionnel, non, on encourage, les gens vivent ensemble. Son voisin, je sais pas, se marie, se sépare, enfin, les gens sont là, ça c'est une réalité. C'est, voilà. Donc la gauche, elle a pas le choix si elle veut survivre. Y a des choses qui vont devenir de moins en moins possibles. Il y a des effacements qui vont devenir de moins en moins aisés. Il y a un confort qui va être de moins en moins exclusif ou moins en moins facile à conserver. Il y aura plus de remous. Peut-être que ça nécessitera même davantage de violence pour conserver ce confort-là. Mais c'est fini. Hein. C'est terminé. c'est terminé. Comme ça, cette thèse d'avant, là, c'est terminé. Ce n'est plus possible, ce n'est plus tenable. Et ça, dans tous les sens, enfin à plein de niveaux différents. Mais en tout cas, pour parler vraiment de cette question raciale, ce confort racial, cette aisance blanche, c'est intenable. C'est terminé.
C'est intenable parce que les forces en face, enfin, militantes, intellectuelles, politiques, elles sont là.
Parce qu'on parle de l'intérieur maintenant. Ouais. Et que ça sera de plus en plus difficile de nous remettre à la marge. C'est difficile. On est dans cette France. Et là, vraiment, on est en France hexagonale. Ce n'est pas à peine de nous placer à La Réunion, en Algérie, en Côte d'Ivoire, où on parle, je vais faire ma parisienne, parce que je suis parisienne, mais on parle depuis Paris. Hein. C'est terminé. Hein. C'est terminé. On a déjà négocié, géré cette culpabilité dont on parlait. C'est complexe, ces cheminements à travers les classes. On a déjà fait ça, on a déjà parcouru ça. Donc ça y est, il y a plein de choses qui ont été réglées. Il y a plein de choses qui ont été réglées. Et il y en a qui partiront ou qui feront des allers-retours entre plusieurs lieux. Mais il y a un ancrage ici qu'on n'a même pas demandé.
qui est là.
Qui est là.
Dans une nouvelle étape.
Ouais. Donc, c'est... Ouais, ce monde-là, c'est fini. Et c'est tant mieux.
Je pense que c'est des bons mots de la fin.
D'accord,
merci encore, Mabouya
Soumaoro,
d'être venue ici. Donc, à nouveau, je recommande vivement ce très beau livre qui sera dans quelques jours en librairie. Merci.
Merci.